Je me réjouis beaucoup de recevoir aujourd'hui à l'Institut Villet M. Pierre Avril, qui est un vieil ami de l'Institut. Nous sommes très heureux qu'il ait accepté de répondre à nos questions et de parler avec nous de sa grande et longue carrière et de tout ce qu'il a fait dans le domaine du droit constitutionnel et de la science politique. Il a souhaité commencer cet entretien par quelques propos liminaires. Donc je lui donne tout de suite la parole.
Bien, je vous remercie, le plaisir est partagé. Simplement pour dire, c'est un exercice un peu embarrassant et narcissique de revenir sur soi-même quand on n'est pas encore mort. C'est déjà un côté, comment dirais-je, hagiographique ou nécrologique. Non, simplement pour dire d'entrée de jeu que. Ni la Constitution, encore moins le droit, n'était chez moi une vocation. C'est d'une certaine manière un accident. Ce sont les circonstances de 1958 qui m'ont imposé en quelque sorte des problèmes que je ne me posais pas. Par conséquent, j'étais embarrassé, j'avais pas d'idée, et j'étais pris à contre à l'époque que je faisais un peu de politique. Je voulais essayer d'avoir des idées un peu plus claires. Et j'en avais parlé à Roger Pinto, qui m'avait dit, faites donc une thèse sur la Ve République, ce que j'ai fait. Et pour essayer d'abord d'étudier d'un peu plus, avec un peu plus de détachement, disons, le régime qui se mettait en place. Et cette thèse, bon, je l'ai soutenue au mois d'octobre 1962, entre la dissolution de l'Assemblée et le référendum, c'est-à-dire qu'elle se terminait par un point d'interrogation. Elle a été publiée en 64. Et puis ensuite, j'ai été journaliste jusqu'au début des années 70. Et donc j'ai suivi la politique et l'établissement de la mise en place de la Ve République, je dirais quotidiennement. Je suis couvert toutes les conférences de presse du général de Gaulle, depuis mai 62 jusqu'à la dernière en septembre 68. Je suis les congrès des partis politiques. Enfin, j'ai suivi la vie politique de très près, professionnellement en quelque sorte. Mais parallèlement, la réflexion, disons un peu plus théorique, sur les institutions, se poursuivait. J'étais secrétaire de la commission institutionnelle du club Jean Moulin, qui était animée par Maurice Duverger et par Georges Godel, et qui comptait un certain nombre de jeunes membres du Conseil d'État qui ensuite ont fait carrière, comme Yves Combarnous, qui a été président de la section du contentieux, Galabert, Jean Tour. Enfin bon, c'était un niveau assez relevé, donc intéressant et instructif pour celui qui y participait. Mais cette commission institutionnelle était, alors, du point de vue de la démarche, était essentiellement orientée, comme les tendances dominantes de l'époque, par la science politique. Il en est sorti le livre que j'ai qui s'appelait, mauvais titre donné par l'éditeur, Un président pour quoi faire, où on voyait que délibérément les aspects juridiques étaient mis entre parenthèses. C'était pas ça qui me paraissait important. D'ailleurs, avant de venir, j'avais regardé et j'ai trouvé quand même, j'avais déjà le couple qui m'avait qui me tracassait. J'avais noté, à la logique des formes, ajouter l'intelligence des forces. Ce couple des forces et des formes n'a cessé de m'habiter ensuite comme clé, enfin, pour essayer de comprendre les choses. Donc c'était les partis politiques qui m'intéressaient plus, c'était les forces qui m'intéressaient plus que les formes, en d'autres termes. Et ce qui a fait que je me suis, quand j'ai passé le concours, péniblement, je me suis inscrit, j'ai choisi la science politique, ce qui m'a fait perdre du temps. Pas mal de temps, je dois dire. Mais malgré tout, par un itinéraire un peu différent, je suis revenu des forces aux formes. à travers d'ailleurs le livre sur mes essais sur les partis politiques qui était placé sous l'invocation de David Hume, qui montrait que déjà une distance par rapport à l'approche sociologique habituelle. Et bon, voilà pour la partie sciences politiques. Alors, pour la partie constitutionnelle, ma thèse a été publiée en 64. Elle a eu le bonheur de connaître 3 rééditions successives, ce qui a eu comme conséquence que j'ai fait 3 mises à jour. Et alors ça, c'est un exercice intellectuellement qui a été très, très stimulant, parce que périodiquement, pendant ces années qui s'étendent de 64 à 79, la dernière édition, j'étais amené à reconsidérer tout ce que j'avais pensé, tout ce que j'imaginais du régime, et donc ça, j'arrive à la fin, à la problématique finale, constater que j'étais parti de la perception du régime qu'en avait la doctrine à l'époque, qui était une perception extrêmement critique, où problème de qualification, régime que ne pouvait pas classer dans les tiroirs habituels. Violation, le terme était employé couramment. Conclusion, ça ne durerait pas, ça ne survivrait pas à De Gaulle. Bon, ça a survécu, c'est resté. Et alors, le côté, je dirais, stimulant, le point d'interrogation, c'était que ce qui était présenté dans les années 60, 62, 63, 64 et même un peu plus loin, comme des violations de la Constitution, vraiment des déformations, plus que des déformations, des violations, c'est devenu progressivement le droit positif, non seulement le droit effectivement appliqué, mais le droit reconnu comme tel. D'où le problème, comment cette métamorphose peut-elle s'expliquer, comment rendre compte juridiquement de cette transformation qui s'est en quelque sorte à vue, que j'ai suivi, que je regardais ce que je disais, je pourrais plus écrire ceci, je pourrais plus écrire cela, ou j'ai écrit ceci mais j'étais complètement idiot, parce que bon, alors le résultat c'était la découverte, la clé que j'ai cru imaginer pouvoir ouvrir cette porte du mystère. C'était les conventions. Ouais. En résumé, tout ça, j'ai essayé de le ramener dans un article de Pouvoir de 89 que j'avais appelé, si je me souviens bien, une revanche du droit constitutionnel, avec un point d'interrogation qui n'a pas été qui n'a pas retenu l'attention de ceux qui l'ont cité, d'ailleurs parfois, et qui y ont vu une sorte de défense du normativisme, enfin, ce qui n'était pas exactement le cas. Mais simplement, je constatais, c'était une espèce d'autocritique qui n'était pas personnalisée, parce que ce n'était pas le lieu ni l'occasion, mais que j'ai écrite comme une autocritique, partiel, en ce sens qu'on décrivait à l'époque Vedel, Duverger, le club Jean Moulin, c'était la Ve République, on l'expliquait par la bipolarisation, le fait majoritaire, c'était ça qui faisait marcher le régime, évidemment, par les institutions. Finalement, ça rendait compte du fonctionnement du régime, mais ça ne rendait pas compte de l'édification, du passage, de la formation du régime, qui était quand même la chose la plus intéressante, intellectuellement tout au moins. Voilà le schéma général. Et maintenant, je me livre aux questions.
Merci beaucoup. Alors, il y a autour de cette table, pour cet entretien avec vous, sans ordre particulier, Carlos Pimentel, Philippe Loveau, et Armelle Le Divellec, à qui je donne tout de suite la parole, c'est probablement autour de cette table le meilleur connaisseur de votre parcours.
Merci Denis, je suis très ravi de cette occasion qui nous est donnée de discuter avec vous de ces idées, de votre parcours de manière générale. Et vous nous avez déjà tracé une trajectoire synthétique qui est, je crois, très éclairante et sur laquelle nous allons vraiment profiter. Alors peut-être avant de nous plonger, disons, dans les discussions de fond, il nous a paru à tous, je crois, assez intéressant de revenir un peu sur votre parcours et de solliciter un peu votre, non pas votre modestie, mais simplement pour nous éclairer, car au fond on parle peu des parcours personnels, nous dire peut-être un peu plus en détail comment vous avez découvert l'université avant même de passer l'agrégation, puisque vous avez été diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris. Je crois que ça a été intéressant aussi pour ces approches originales. Est-ce que vous avez commencé par l'IEP ou vous avez été d'abord inscrit à une faculté de droit pour passer à l'IEP après?
À l'époque, on faisait les deux en même temps, toujours. Ce qui était une époque heureuse, on pouvait faire les deux sans se fatiguer exagérément. Non, c'est important. Mais ça, non, ça, on avait quand même deux registres continuellement, ce qui était intellectuellement, c'était quand même assez stimulant. Non, j'ai fait ma licence normale parallèlement à l'Institut d'études politiques. Sauf que ce qui m'intéressait, moi, c'était l'économie. J'avais fait la section économique à Sciences Po et j'ai fait ensuite mes diplômes d'économie politique et de sciences économiques, ce qui m'a obligé par la suite à faire le diplôme DES de droit public pour pouvoir passer le concours.
D'accord. Et sur les premiers maîtres, disons, les premiers professeurs de droit que vous avez rencontrés à l'époque, donc c'était à Paris déjà, la licence en droit. Est-ce que vous, il y a des choses marquantes de personnages ou qui étaient déjà connus à l'époque ou qui vous ont impressionné ou en tout cas amusé ou intéressé?
Écoutez, pour vous avouer la vérité, je n'ai jamais suivi un cours pendant ma licence. Je n'ai jamais suivi un cours pendant ma licence. Il y avait un copier qui était tout à fait utile, car ça gagnait du temps. Et simplement, j'ai eu des... C'est par la politique, c'est par l'époque de Mendès France et du Parti radical que on avait remonté un comité, dit le comité de la Sorbonne, et on avait demandé à René de la Charrière d'en être le président. Il y avait Roger Pinto qui y était, il y avait inscrit, mais non pas quelques autres, dont Pierre Lampuet. Et donc mes contacts avec les professeurs de droit étaient tout à fait, comment dirais-je, extérieurs. À l'université et aux facultés. Je les ai connus comme ça, et ensuite je suis revenu, mais sans qu'il y ait une attirance particulière pour la faculté de droit, je dois le dire.
Par exemple, vous n'avez rencontré de René Capitan qu'au moment de votre thèse?
Oh, bien après. Quand il y avait les lundis de Sciences Po, c'était des lundis, il y avait des séances comme ça qui arrivaient, et Capitan m'avait fait l'honneur de discuter ma thèse, et j'avais rencontré un de ces lundis, et c'est là où il m'avait pris dans un coin, il m'avait dit « lisez Carré de Malbert », ce qui me paraissait parfaitement anachronique. Enfin, je me dis qu'est-ce que je vais... Je l'avais feuilleté, Pinto m'avait donné une pile comme ça d'ouvrages, des ouvrages classiques qu'il fallait que je regarde un peu pour pouvoir les citer quand même, pour les mettre en bibliographie, et il y avait notamment Carré de Malbert que j'avais feuilleté avec respect, mais c'est une distance. Et donc, quand Capitaine m'avait dit ça, il me parlait de la loi, il disait de l'article de la RDP de 28. Je dis, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Quel intérêt pourrais-je trouver aujourd'hui à ces vieux... C'est pour dire l'état d'esprit dans lequel... et je pense que je n'étais pas le seul, mais la science politique, c'était le contemporain. Ce qui était intéressant, c'était les États-Unis d'aujourd'hui, l'Angleterre d'aujourd'hui, et par conséquent, l'histoire française de la Troisième République n'avait un intérêt en quelque sorte anecdotique, mais ne pouvait rien nous apporter. C'était ça, cette idée, le sentiment que j'avais.
D'accord. Et juste une dernière petite chose sur cet aspect-là. Il y avait, à vos yeux, il y avait une certaine union personnelle, en tout cas beaucoup de professeurs de la faculté de droit enseignaient à l'IEP de Paris, donc vous voyez aussi peut-être les mêmes têtes, enfin vous voyez, vous saviez qu'ils existaient. Et il y avait quand même certains enseignants, plus alors des praticiens ou des membres du Conseil d'État ou des économistes, qui vous ont plus marqué dans les moments où vous les avez croisés au moins à cette époque-là.
Parce que moi, j'étais encore une fois à la section économique, et alors les nos grands hommes, c'était François Bloch-Lenné, c'était de l'ouvrier, c'était des inspecteurs des finances. Bon, j'ai eu une révélation, parce qu'on avait quand même une grande liberté, on pouvait aller dans un cours pour voir ce qu'on allait suivre, ou simplement par curiosité. C'est là où j'ai entendu Aron. Ça, c'était la révélation. Mais c'est vraiment la seule révélation dont qui marquait le côté extérieur. Autrement, c'était l'économie, je ne dirais pas la plus étroite, mais en tout cas, sans divagation.
Et François Goguel ?
François Goguel, ben, je l'ai connu après. Pareil, parce que c'est comme une fois que j'ai fait ma thèse, c'est-à-dire c'était quand même... La Sciences Po, c'était en 52-53. C'était 52-53, oui. Et donc, ma thèse est 62, elle est publiée en 64. Bon, j'étais allé voir Gogol quand je la préparais. Mais c'était donc assez longtemps après.
Une petite question sur l'économie. Et ça me frappe ce que vous me dites, j'ignorais cela. Vous avez commencé par cela. Moi, c'est ce que j'aurais voulu faire à Sciences Po, d'ailleurs, de faire de l'économie. Puis on m'a dit non, c'est trop difficile, etc. Et donc, ça m'intéresse particulièrement de savoir ce qui vous intéressait en matière économique. D'une part, ce que vous aviez envie d'en faire professionnellement à ce moment-là, et puis ce qu'il en est resté finalement lorsque votre trajectoire a complètement changé après.
Alors, tout d'abord, c'était moins difficile, je crois, à l'époque. Et d'ailleurs, j'avais laissé tomber. À la faculté, quand même, après le DES de sciences économiques, parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de mathématiques et que c'était un peu rebutant. La Sciences Po, c'était quand même plus littéraire. Enfin, j'avais aucune idée, non, simplement, c'est trouvé comme ça.
On trouve une trace de votre intérêt pour l'économie dans vos écrits de cette période-là, enfin, notamment en 1958. Et puis un petit peu plus tard, à travers ce que vous dites parfois au sujet de la planification. Mmh. Il y a même un chapitre dans Un président pour quoi faire sur la planification.
C'était l'époque.
C'est une planification, une planification tolérante pour le secteur privé. Il s'agit d'aménager le...
Vous savez, ce thème de la planification, c'est presque impossible de se replacer dans ce contexte. C'était un concept absolument... Il suffit de regarder le général de Gaulle, l'ardente obligation. La planification était une des pièces maîtresses de la politique française, et elle tenait une grande place. Alors, sur l'effectivité, je laisse les spécialistes en discuter, mais pour la place... Et alors, d'une part, la planification avait dans la politique... du gouvernement, enfin, c'était quelque chose d'important. Le commissariat du plan était un endroit tout à fait... Ben, j'avais des amis au commissariat du plan, c'était un endroit où il y avait beaucoup d'idées, où on fréquentait, enfin bon, c'était à côté, bon, c'était... Je pensais à la commission intelligente. Mais à l'époque, ça aurait été là que ça se serait passé. D'autre part, l'intérêt pour l'économie, la planification, alors, a joué un rôle politique parce que pendant quelques années, pendant les années entre 1960 et 1964-65, l'époque du 65-66 à peu près, ça a joué à gauche un double rôle. Ça a été un peu un substitut des gens qui étaient battus politiquement et qui se repliaient sur d'autres thèmes, et en même temps, ça a été le moyen ou l'occasion d'une rencontre avec le syndicat. C'est l'époque où la CFTC est devenue CFDT, c'est laïcisée, et elle était très engagée dans les milieux, disons, la gauche non communiste. C'est la deuxième gauche, pour parler comme Rocard. Ça a commencé par là. Alors, bon, d'ailleurs, j'ai été, ça m'intéressait beaucoup, puis à Jean Moulin, on passait de l'un à l'autre. J'ai été, autour de Bloch-Lenné, il y avait ce qu'on appelait le groupe de recherche ouvrier paysan, c'est dire, mais qui réunissait des syndicalistes, des gens comme, qui par la suite, bon, maintenant, ils sont mon âge, ou ils ne sont plus encore, mais c'était cette rencontre entre, disons, les technocrates des syndicalistes désireux de faire quelque chose, qui était la deuxième, la morse, le creuset de la deuxième gauche, la rocariété d'ailleurs, de toute façon, il venait là. Donc, c'était pour la planification, ça a joué un rôle à la fois dans la politique générale, mais également dans la réflexion, ça tenait une place considérable. Et puis, bon, ça a été complètement balayé par la suite, mais c'était balayé après.
Alors, on voudrait revenir sur, d'abord, ce que j'appellerais le moment 1958. Comment vous y réagissez, et puis ensuite, comment vous l'interprétez. Avec votre autorisation, je voudrais citer quelque chose qui m'avait frappé, qui était un petit extrait d'un courrier que vous m'aviez adressé. Vous me disiez la chose suivante. Vous me disiez, je crois que l'on ne mesure pas exactement le climat des années 1958-1962, durant lesquelles la hantise de la guerre civile était obsédante, l'issue des accords d'Évian conduit le commentateur contemporain à sous-estimer l'espèce d'angoisse qui régnait alors, l'affaire de la convocation du Parlement en session extraordinaire ne peut être séparée des menaces de subversion relancées par une Assemblée nationale à majorité Algérie-française. Ce contexte explique bien des choses dans la mise en place de la 5e et l'interprétation qui a été imposée. Donc au fond, comment à ce moment-là vous vivez ce moment 58 ?
Ah ben, c'était dramatique. Bon, ça, après coup, ça a l'air d'une plaisanterie, mais ça a été dramatique. Et d'ailleurs, De Gaulle a joué superbement de cette inquiétude, de cette presque. On se voyait au bord de la guerre civile. Une anecdote. Bon, j'étais la nuit où l'Assemblée a voté la confiance au gouvernement Fimelin, c'était le 13 mai, je me souviens bien. J'étais dans le bistrot qui était à Coco, sous place du Palais Bourbon, et on commençait à faire circuler des voitures avec des mitraillettes. On avait le sentiment palpable qu'on était au bord de la guerre civile. Et d'ailleurs, c'était si vrai que on a appelé De Gaulle.
C'était pas
ça a duré. Mais si vous regardez dans les gens se faisaient protéger. Bon, il y avait des. Je sais pas, pour donner un exemple, ma femme était la secrétaire de Pierre Mendès France, et j'avais donc travaillé avec lui. On nous avait proposé un flic. Bon, évidemment pas pris de flic parce qu'on cliquait, mais parce qu'il y avait les attentats de l'OAS. Et tout le monde avait son flic, parce que, enfin tout le monde, beaucoup de gens avaient un flic qui vous protégeait, qui venait sur le palier. Donc c'était bon, ça paraît un peu dérisoire aujourd'hui, puisque ça s'est bien terminé, enfin, sauf pour quelques-uns, enfin, mais ça s'est bien terminé, mais sur le moment, on était quand même un peu inquiets.
Et peut-être pour revenir sur ce moment-là, et aussi peut-être, mais on en reparlera longuement après, sur la cinquième que vous jugez rétrospectivement, votre réaction à l'époque, qui est tout de même dans le sillage de Mendès de 58, disons très hostile, pas du tout enclin au compromis et à l'acceptation de ce qui se passe en 58. Ce que vous dites là, au fond, tranche peut-être un peu avec cette attitude un peu intransigeante de quelqu'un comme Mendès, et aussi le ton critique de vos premiers écrits sur la Ve République, malgré cette polarisation, disons, dans laquelle la gauche moderne, pourrait-on dire, pouvait se dire que De Gaulle était encore le meilleur rempart contre les activistes.
Oui, bien sûr, mais ça avait... C'était très ambivalent, enfin, comme sentiment, bien sûr. Heureusement qu'il est là d'un certain côté, mais en même temps, qu'est-ce qui va se passer ? Surtout dans l'interprétation, ça c'est un peu le café du commerce, mais l'interprétation qu'on en donnait, c'est qu'il ne pourrait pas résister, qu'il serait emporté parce que... il était tout seul. Il était tout seul et que ce qui le portait, ce qui l'amenait au pouvoir... allait déferler. D'ailleurs, la composition de l'Assemblée nationale, à l'époque, l'Algérie française était le thème qui l'emportait, évidemment, très majoritairement. Et par conséquent, De Gaulle apparaissait comme quelque chose de... un alibi pour une phase beaucoup plus inquiétante. Mais d'ailleurs, si vous regardez, c'est une anecdote, mais à l'époque, en juin 1958, les commentaires des journalistes italiens étaient, c'était le fascisme qui arrive. C'est le fascisme qui va déferler sur la France. C'était la perception qu'il y en avait. D'où le caractère absolu de la rupture avec ce régime, parce qu'il arrivait avec cette espèce. Aujourd'hui, on regarde avec un rétroviseur, enfin, on voit ce qui s'est passé après, on ne voit pas le déroulement des facteurs, et donc on a du mal à comprendre, mais pourquoi comment était-il aveugle au point de ne pas voir que De Gaulle allait faire ceci? Pas du tout, ce n'était pas du tout la perception qu'on en avait.
Et alors, est-ce que vous ne tranchez pas ou vous ne changez pas de position, vous comprenez peut-être de présenter des choses avant Mendès, lorsque vous détachez de lui sur la question du régime à partir de 62, est-ce qu'au fond, lui ne reste pas dans cette attitude intransigeante de 58 qui prolonge, tandis que vous, vous dites, mais au fond, là, il y a quelque chose de nouveau et c'est pas ce spectre fasciste.
Oui, je faisais une politique à l'époque, en 62. J'ai fait ma thèse et puis je suis parti dans la presse. Donc j'étais de spectateur. Donc le problème ne se posait plus dans les mêmes termes.
D'accord, alors là, mais c'est l'unité de votre personne qui est...
C'est un engagement politique qui se termine et on fait autre chose.
Et je veux dire, sur la façon dont vous comprenez ce qui se passe, la dynamique institutionnelle, j'ai presque le sentiment que vous comprenez avant Mendès, ou peut-être n'a-t-il jamais compris, qu'il y avait quelque chose de nouveau qui se mettait en place et que vous approuviez dans le sillage.
Ben, c'était plus tordu, parce que, pour revenir à Jean Moulin en particulier, on était partisan de l'élection... du chef de l'exécutif sans spécifier, puisque ce n'était pas constitutionnel, c'était les forces politiques. Et donc c'était le suffrage universel qui portait l'essentiel, c'était ça. Parce que ce n'était pas idiot non plus, d'une certaine manière, parce que ça a marché. Mais le paradoxe, c'était que tous les gens, notamment le club Jean Moulin qui défendait cette thèse, disons le présidentialisme de gauche, pour faire court, c'était des mendésistes. Et c'était parce que Mendès s'était adressé au peuple, mais les partis ne lui permettront jamais, donc il faut s'adresser directement au peuple. C'était du gaullisme avant la lettre, d'une certaine manière, et il s'est retrouvé que c'est pas Mendès qui l'a fait, c'était De Gaulle. Mendès était horrifié par ça, ça lui plaisait pas du tout. Mais c'était donc le passage pouvait, il y avait moins de contradictions qu'on pouvait le penser, entre, non pas un ralliement à la Ve République, mais entre la constatation que finalement ça ne marchait pas trop mal, que c'était plutôt mieux qu'avant. C'est ça.
Et alors, ce que vous diriez éventuellement, que dans la réaction de Mendès France, il y aurait finalement quelque chose qui est un peu analogue à des réactions qu'avait pu avoir Léon Blum, par exemple, lorsque il écrivait dans À l'échelle humaine qu'il était pour l'élection au suffrage. Et puis dès que ça se matérialisait en De Gaulle, c'était plus possible. Est-ce qu'il y avait cette composante-là? Et je voulais vous poser aussi une question sur les craintes qu'avait la gauche anti-gaulliste en 62. Ce que j'ai un peu de mal à mesurer rétrospectivement, c'est... dans quelle mesure il y avait vraiment des craintes réelles, sincères, de dérive césariste, quoi. Et dans quelle mesure il y avait aussi une part de phraséologie, quoi, un peu de discours et d'hypocrisie. Il me semble qu'il y avait peut-être un peu les deux, mais je voudrais avoir votre point de vue là-dessus.
Non, à vrai dire, c'était pas tellement De Gaulle dictateur. C'était plutôt les forces qui l'amenaient. Bon, alors ça a tourné court, disons, on peut dire, dès le tournant de l'autodétermination, on s'est rendu compte que la page était tournée.
Pardon, ma question portait sur 62, la dissolution du référendum.
Là, c'est un peu de la rhétorique. À mon avis, c'était en grande partie de la rhétorique et des lieux communs, des souvenirs. Vous savez, la mémoire, Napoléon III, le coup d'État, etc., c'était toute une espèce de, comment dire, de, de musée Grévin républicain qui ressortait, qui était plaqué là-dessus. Mais souvent, enfin, je crois de bonne foi, mais c'était parce que c'était dans le magasin des accessoires, c'est ce qu'on trouvait pour juste expliquer, pour rendre compte de ce qui se passait. À vrai dire, la crainte n'était pas de crainte, sinon c'était fini à l'époque de la. Une fois la guerre d'Algérie terminée, on changeait de registre complètement. C'était de la politique ordinaire, la politique intérieure habituelle, enfin, avec les arguments qu'on utilise en pareil cas.
Est-ce que le tournant d'avril 62 a été perçu comme cela, c'est-à-dire, en somme, si j'ai bon souvenir, à ce moment-là, Debré propose une remise du régime sur les rails originels, enfin c'est du Coandé, si on peut dire, on va revenir à la Constitution qui n'a pas pu être appliquée jusque maintenant en raison des circonstances. Et De Gaulle rejette cette possibilité en même temps que celle d'une dissolution que lui propose Debré, il change de ministère.
Est-ce qu'on sait exactement ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, hein?
Vous n'avez pas souvenir de cela. Souvenir de conscience d'un changement qui, finalement, n'est pas mineur, parce qu'il nous conduit droit vers octobre.
L'arrivée de Pompidou a surpris tout le monde. L'arrivée de Pompidou a surpris tout le monde, et on dit, enfin, le sentiment, c'était il va fort. Il prend son ancien directeur du cabinet. Je pense qu'il n'y avait pas d'île. Enfin, si Debré se faisait des illusions sur un retour à sa constitution, à sa vision constitutionnelle à lui, je crois que personne ne s'en faisait beaucoup. Je crois qu'il était le seul à se dire. Il n'y a pas eu de la nomination de Georges Pompidou en avril 62, pour autant que je me souvienne, était quelque chose de surprenant, mais pas de bouleversant.
Donc en somme, il aurait été la seule dupe de cette affaire. J'ai le souvenir d'avoir lu beaucoup plus tard, évidemment, d'avoir lu le compte-rendu, en somme, de cet épisode, dans le style La journée des dupes, si vous voulez, par ce chroniqueur du Canard enchaîné qui pastichait Saint-Simon. Et c'est extraordinairement bien décrit, c'est-à-dire que on y est vraiment, il est dans la peau des personnages, il les fait parler, etc. Mais ça donne une impression de réalité absolument extraordinaire sous le déguisement de la langue archaïque. On a un peu cette impression-là qu'en somme, il n'y avait que Michel Debré qui croyait à son.
Je me souviens plus exactement ce qu'il en dit dans ses mémoires. Je me souviens, dans le passage, du point de vue de Debré, je n'en sais pas, j'ai le point de vue extérieur, je ne lui en ai jamais parlé, il ne m'en a jamais parlé. Et donc, je ne pourrais pas dire. Je dis simplement, on était surpris Pompidou, je me rappelle très bien, la première fois que je l'ai vu, c'était à la conférence de presse du mois de mai, la fameuse conférence de presse sur le vol à puc intégré, etc. Et il y avait Pompidou qui était là, tout le gouvernement était toujours là. Il n'y avait pas de bouleversement par rapport à la période antérieure, sinon ce côté insolite de quelqu'un qui n'était pas parlementaire, qui était le directeur de cabinet, qui devenait Premier ministre.
Alors, pour terminer peut-être sur cette phase relative à votre parcours et à votre caractère de témoin de ces débuts de la Ve République, me revient à l'esprit une phrase de Philippe Reynaud qui avait dit un jour... les professeurs de droit et les publicistes de la 4e République, les progressistes, les hommes de gauche, quand arrive 1958, ils n'ont rien à dire à part que c'est mal. Et au fond, alors vous n'êtes pas encore à ce moment-là professeur de droit, mais vous êtes publiciste au sens du siècle 19e du nom, c'est pas votre réaction. J'en ai trouvé une trace... dont je serais heureux que vous me disiez un mot, si vous le désirez, je dirais, pour l'histoire politique, la bonne tenue des débats et des dossiers, comme on dit devant les juridictions. C'est un petit document renéotypé qu'on trouve à la Bibliothèque nationale et qui s'appelle les cahiers de la Ve République. Ce n'est pas les cahiers de la République, c'est les cahiers de la Ve République, dont vous êtes le directeur de la publication et l'adresse de la publication est une adresse bien connue du Quartier Latin pour ceux qui vous ont rendu visite. Et on y trouve, moi j'ai trouvé que les deux numéros de novembre ou décembre 1958, et vous n'y signez pas d'articles, il y a beaucoup d'articles non signés, et on y trouve des articles de Raoul Aubeau, ancien ministre, et on y trouve beaucoup d'analyses constitutionnelles qui comportent des éléments, je dirais, classiques, radicaux, et puis aussi une modernisation du discours pour montrer qu'on est en fait favorable aux possibilités qu'ouvre la Ve République, et notamment au fait que tout de même De Gaulle est en train de faire quelque chose de positif en Algérie et qu'il serait malhonnête de ne pas le reconnaître. Donc sur cette base-là, il y a à la fois un élément d'adhésion au régime en disant la Constitution a été votée par le peuple français, tous les démocrates doivent en donner acte. Par ailleurs, elle est grosse de possibilités qui ne sont pas nécessairement malheureuses. Et on trouve par exemple dans le deuxième numéro une approbation de ce qui est appelé d'ailleurs dans un langage assez classique du radicalisme français, le scrutin d'arrondissement, l'approbation du scrutin d'arrondissement, en montrant qu'au fond, s'il n'y a pas trop de manipulation dans les délimitations, les découpages des circonscriptions, tout ça est tout de même mieux que la proportionnelle. Donc au fond, on a l'impression avec ce petit journal que vous avez peut-être oublié d'ailleurs, on a le sentiment d'une tentative pour créer une gauche constitutionnelle en 1958, ou un radicalisme constitutionnel en quelque sorte.
Et écoutez, je suis ahuri parce que je ne me souviens absolument pas de cette... Bon, Raoul Aubeau, je me souviens de Raoul Aubeau, bien sûr, mais je ne me souviens pas du tout avoir... Alors, est-ce que j'ai accueilli à mon adresse quelque chose qui était fait par d'autres? Je me souviens plus du tout.
Bien, je retournerai à la Nationale et je vous en ferai une copie.
Et mais ça se présentait comment?
Un format qu'on appelle aujourd'hui A4, renéotypé. Ça fait assez artisanal, pour tout dire. Ça s'appelle Les cahiers de la Ve République.
Les cahiers de la Ve République.
La Ve République. Je n'en ai vu que deux exemplaires pour 58. Ça s'annonce comme un trimestriel. Ouais. Ça démarre très fort, puisqu'il y a dans le premier mois du trimestriel deux numéros, ce qui est beaucoup pour un trimestriel. Et ce après quoi, moi, j'ai pas vu la suite. S'il y en a une, je l'ai pas retracée.
Écoutez, d'abord, je n'en ai certainement pas chez moi. J'ai pas gardé trace. Mais ce qui est plus grave, c'est que je ne m'en souviens pas.
Et ça défend des positions qui sont celles de l'Union des Forces Démocratiques, c'est ça?
Enfin, l'UFD, oui.
Est cité par exemple Georges Boris.
Oui, oui.
Mendès n'est pas cité directement. Je me rappelle, je dis ça de mémoire, il y a un grand article sur le dernier référendum du Second Empire, le dernier plébiscite du Second Empire.
Et c'est grave, là, parce que si j'avais à rendre compte... devant un tribunal, on ne croirait jamais.
Alors, Émeric Brayer n'en parle pas dans sa très bonne biographie intellectuelle au début des Mélanges Pierre-Avril. À vrai dire, peu importe ce détail-là, mais ça me semblait l'illustration d'une tentative précisément à la fin de l'année 58 de rester constitutionnel tout en n'étant pas un gaulliste de gauche, par exemple.
Eh bien, écoutez, je ne crois pas y avoir écrit, en tout cas.
Mais est-ce que vous gardez le souvenir de cette idée, pas de la chose, de l'idée qu'il fallait adhérer à la Constitution parce qu'elle était démocratique, mais qu'on devait la...
Non, enfin, c'est-à-dire que ça, c'est dans l'entourage de Marie, je veux citer Georges Boris, il est certain que Boris, qui avait été à Londres avec De Gaulle, était assez déchiré, et il aurait voulu rapprocher les deux hommes, ça n'a pas marché, bien sûr. Mais il était, disons, dans l'entourage, celui qui était pour une vision, même Jacques Kayser aussi à l'époque, c'était des gens qui étaient pour une vision moins dramatique une fois que c'était passé, si vous voulez. Une fois que la fin de 58, on sentait que ça se stabilisait un peu, et par conséquent, le côté dramatisation, la température diminuait. Donc, c'est possible. Alors, je ne sais pas si c'est domicilié, si c'est situé chez moi. J'ai dû l'accueillir comme ça, par imprudence, peut-être. Oui. Ça aurait pu être imprudent.
D'autant qu'en à ce moment-là, vous êtes encore secrétaire général des cahiers de la République, les vrais, si je puis dire. Et là, vous continuez encore pendant 3-4 ans être
Ben oui, c'est ça qui me surprend. Je ne sais jamais. Il y a un mystère. Il y a un mystère avec la série. Et mon nom apparaît.
Oui, en tant que directeur de la publication.
En tant que directeur de la publication.
C'est au catalogue de la BNF, en effet.
Ben écoutez,
se souffre sur des recherches.
On s'arrête une première fois, donc c'est plus enregistré. Oui, oui.